Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment ça va ma chère aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour
pendant
à tous.
Pendant cette heure, vous le savez, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Le lien entre une mère et sa fille est très fort, mais pas toujours dans le bon sens du terme. C'est une relation complexe qui franchit des paliers de l'enfance à l'âge adulte. Dans le duo mère-fille, il y a un effet miroir. Il y a les filles qui ont besoin de se construire contre leur mère, d'autres qui au contraire entretiennent une relation fusionnelle, parfois proche du mimétisme. Il arrive que la mère se projette sur sa fille ou la jalouse, ou que la fille veuille s'émanciper, ne plus être la fille de sa mère. C'est alors la crise, voire même une séparation. Alors, quel est ce lien si particulier entre une mère et sa fille? Mère-fille, quelle relation entretenez-vous? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Un seul numéro, le 3921. Vous le composez dès maintenant. Si vous souhaitez témoigner, 3921, 50 centimes la minute. Sur Twitter pour nous écrire hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Marie. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Marie. Bonjour.
Bonjour, merci.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 25 ans.
Oui.
Et je vis à Villejuif.
D'accord. Alors Marie, vous avez toujours été la fille adorée de votre mère. Vous êtes son aînée, mais aussi sa seule fille. Lorsque vous étiez plus petite, vous aviez l'impression d'être très proche d'elle?
Oui, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Malheureusement, avec les années qui passent, je m'en souviens plus trop et c'est plutôt les dires de mes amis d'enfance, de la primaire et du collège qui me disent aujourd'hui, mais tu étais très très proche de ta mère petite.
C'est-à-dire
et
que
sa vie adorée.
Vous parliez beaucoup avec elle, vous dialoguiez beaucoup avec elle?
Oui, je me souviens que je lui parlais beaucoup, qu'on était assez proches, oui.
Ouais. Et est-ce que cette mère a été très vite un modèle pour vous, des petites?
Pas forcément. Enfin, non, c'était ma mère, mais pas forcément un modèle parce que dès ma naissance, elle est mère au foyer.
Ouais.
Mère au foyer. Mmh. Et donc moi, très vite, j'ai eu le goût de travailler, de sortir, de découvrir, de voyager. Je suis un peu à l'antipode d'elle, du coup.
Alors
pas
justement,
forcément un modèle.
On verra cela ensuite, mais est-ce qu'on peut parler dans les premières années d'une relation fusionnelle entre vous?
Oui, assez fusionnelle, oui, parce que j'ai un exemple qu'on m'a rapporté, c'est qu'elle s'entend très bien avec ma grand-mère paternelle, mais à l'époque, elle ne voulait pas du tout me la laisser à ma grand-mère. Elle voulait absolument me garder et on passait beaucoup de temps ensemble, donc oui, on était très très proches.
Une mère assez possessive, donc. Alors, vers le lycée, vous avez inévitablement commencé à sortir, à faire votre propre vie. Hein, et vous vous souvenez comment a commencé à réagir votre mère à ce début d'émancipation?
Elle a commencé un peu à mal le prendre parce que je ne rentrais plus à la même heure. Je me faisais des amis. Je ne rentrais pas très tard le soir, mais c'était différent, le passage collège-lycée.
Oui.
Je m'intéressais à des choses différentes de ce qu'elle peut intéresser. J'allais plus faire la lecture, le théâtre, quelque chose de très culturel et pas forcément quelque chose qu'elle faisait. Et c'est à partir de là qu'il y a une fracture, oui.
Vous avez eu quelle impression vous avez eu, qu'elle vous en voulait de que vous n'alliez pas dans la direction à laquelle elle avait pensé?
Qu'en fait, elle n'était pas satisfaite de la fille qu'elle avait. Donc, une sorte d'incompréhension. Moi, je ne la comprenais pas et elle ne me comprenait pas alors que j'avais juste ma vie. Enfin, je commençais à faire ma vie et à avoir des goûts différents. Et j'ai l'impression que je ne répondais pas à des cases qu'elle se fixait. Et c'est pas évident.
Alors, vous employez le mot frustration. Est-ce que vous aviez l'impression de ne pas être assez bien pour elle?
Oui. Bah oui, parce que en tout cas son regard qu'elle portait sur moi me donnait cette envie-là. Alors bien sûr, je sais qu'elle m'aime et elle est là quand ça va pas, mais voilà, par rapport à mes goûts, par exemple, j'aime les comics, j'aime beaucoup Batman.
Ouais.
Bah pour elle, c'est quelque chose qui est lié aux garçons, donc elle comprend pas mon truc là, d'aimer les choses comme ça. Donc oui, j'ai l'impression de pas la satisfaire tant que fille complètement.
Comment est-ce que vous analysez ce à quoi, contre quoi vous êtes heurtée à cette époque-là, en fait, parce que vous décrivez une mère au foyer qui s'occupe de vous tout le temps, qui a du mal à vous confier à sa propre mère. Est-ce qu'il y a eu un premier choc culturel, on dirait, entre vous ?
Je pense clairement. Déjà, le gros souci pour moi, c'est... je ne renie pas du tout ce métier-là, cette fonction-là, mais d'être mère au foyer, ça isole. D'autant plus que ma mère, étant née au Portugal et après a vécu en France, du coup, elle n'a plus de contact avec ses amis.
Ouais.
Du coup, elle s'est retrouvée ici, en France, avec son mari, moi et mon frère. Et donc, il n'y a que la famille qui compte.
Mm-hmm.
Moi, j'ai commencé à créer ma vie, ma bande d'amis, mon boulot, mes occupations. Du coup, ça fait un énorme pôle comparé à elle, qui a juste un pôle familial très, très restreint. Donc, pour moi, ça a été deux mondes qui se confrontent et qui ne s'entendent plus.
Ouais, ouais.
Et c'est un gros souci pour moi, le fait qu'elle soit mère au foyer, parce que je pense que ça la bloque du monde extérieur et qu'elle nous comprendrait mieux.
Elle a vécu sûrement de manière assez violente cette bifurcation, d'un seul coup que cette petite fille adorée soit aspirée vers d'autres horizons, hein, comme on dit. Lorsque vous êtes partie du foyer familial, les relations se sont apaisées, hein, je crois.
Oui, elles se sont un peu apaisées, parce que du coup, le fait qu'on se voit moins tous les jours... ça s'est un peu calmé, on parle d'autres choses, puisqu'on n'a pas la même façon de voir la vie, de même juste de manger, ou de voilà, c'est devenu un peu compliqué, donc
ouais.
Ça va mieux.
Mm-hmm.
C'est pas encore l'idéal, parce que même si on n'est plus ensemble, le choc culturel est encore trop, trop grand.
Mmh. Bon, en tout cas, en fait, le fait que vous ayez quitté le foyer familial, vous êtes quelque part maintenant, vous menez votre vie, et quelque part, dans ce que vous me dites, elle a fini par accepter, elle commence à accepter cela.
C'est ça. Mmh. Oui, exactement. Elle est même contente que je sois partie, que je commence à faire ma vie, etc. Après, elle a sa vision de sa vie qui est du coup différente de la mienne, et je ne peux pas trop tout lui dire,
bon.
Ça va déjà mieux.
Vous restez en ligne avec nous, hein, Marie. Nous allons continuer à parler de votre relation mère-fille, mais aussi accueillir Nadine. Elle est la mère de trois filles adolescentes et le quotidien à la maison passe par la bienveillance et le dialogue. Mais ça n'est pas toujours facile.
Europe 1.
Êtes-vous fusionnel avec votre maman ? Vous êtes une fille ? Ou s'agit-il plus d'une relation toxique ? Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 pour nous appeler le 3921.
Si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi.
Vous êtes mère et vous serez là, toujours pour votre fille, comme le chante Thierry Moïse, toujours là pour la conseiller, l'accompagner, ou au contraire, vous avez pris votre distance. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 3921 pour témoigner.
Et justement, à propos de distance, nous sommes toujours en ligne avec Marie qui nous expliquait, après avoir vécu un rapport très, très, très proche du fusionnel avec sa mère, depuis qu'elle avait quitté le foyer familial, eh bien... les relations avaient fini par s'améliorer. Comment est-ce que vous définiriez la relation que vous avez avec votre mère aujourd'hui, Marie ?
Une relation mère-fille...
apaisée ?
Assez apaisée, oui.
Ouais.
Oui. Ouais.
Vous n'avez pas le droit à quelques réflexions sur votre manière de vivre ? Vous avez l'impression qu'elle va dans le même sens que vous aujourd'hui ? Qu'elle ne rate pas une occasion, par exemple, de se rapprocher de vous ?
En fait, ça dépend. Des fois, elle essaye de se rapprocher, puis des fois... ma manière de vivre diffère tellement de la sienne qu'elle ne comprend pas. Du coup, ça dépend vraiment. On essaye là de reconstruire en fait une relation depuis que je suis partie. Du coup, on avance tout doucement.
Vous avez essayé de parler avec elle justement de ses frustrations, de la charge importante qu'elle mettait sur vos épaules en réagissant parfois comme ça ?
Oui, plusieurs fois, mais... Le dialogue était assez sourd parce qu'elle-même disait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle vivait.
Mmh.
Donc du coup, moi, je me suis remis en question et je pense que c'est très difficile d'être mère parce qu'elle a tout donné pour moi et l'enfant s'en va et il y a une remise en question. Mais maintenant, je suis quoi ? Et aujourd'hui, je comprends mieux et je lui en veux moins, mais je lui en voudrais jamais, en fait. Et voilà, c'est juste que c'est difficile d'être mère parce qu'on donne tout pendant des années. Et puis, quand la fille s'en va, ben, on a l'impression qu'on a perdu notre rôle.
Et puis, c'est sûrement très difficile aussi pour une mère, en règle générale, de voir quitter le foyer familial de son enfant, qu'il soit d'ailleurs une fille ou un garçon, parce que souvent les parents se projettent hein, sur voilà, l'avenir de leurs enfants, et puis il est rare que les enfants suivent exactement la route toute tracée, et puis que voilà, ils écoutent leurs envies. Donc, est-ce qu'il y a un ordre, un problème de cet ordre-là aussi? Est-ce qu'elle avait imaginé une autre vie pour vous?
Oui, je pense qu'elle avait imaginé une autre vie un peu plus, comment dire, moins, un peu plus rangée, moins difficile, parce que je réponds pas à un métier qu'elle aurait aimé. Je suis à mon compte en freelance, donc c'est un peu aujourd'hui c'est tendance, mais c'est
Mais
pas facile tout le temps.
c'est pas facile, mais vous êtes entreprenante. Et ça fait partie aussi
Oui.
de votre génération. Merci beaucoup, Marie, pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Nous sommes maintenant en ligne avec Nadine. Bonjour, Nadine, soyez la bienvenue.
Merci, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 40 ans et je suis à côté de Colmar, à Andelsheim.
D'accord. Alors, vous, Nadine, vous êtes la mère de trois adolescentes. Avant de les avoir, quelle fille étiez-vous avec votre propre mère?
Alors, la relation avec ma maman a toujours été une relation assez simple, mais pas forcément dans la communication. C'est-à-dire que moi, je suis la petite dernière d'une famille de quatre enfants, avec un écart important avec mes frères et sœurs. Et du coup, ma maman était assez âgée quand elle m'a eue, et on ne communiquait pas forcément sur ce que doit être une fille à mon âge et tout ça, en fait, sur les questions que j'aurais pu avoir.
Quelles conséquences cela a eu lorsque vous êtes devenue, vous, maman? C'est tout de suite une des premières réflexions que vous êtes fait d'établir le dialogue au plus vite avec vos enfants?
Exactement, oui. Alors, bon, en plus, moi, j'ai divorcé quand mes enfants étaient assez petites. Donc, la culpabilité faisant, j'ai voulu beaucoup instaurer le dialogue, leur laisser, enfin, qu'il n'y ait aucun tabou, qu'elles puissent me dire toutes leurs émotions. Et je pense que quelque part, malheureusement, enfin, heureusement, j'aurais tendance à dire, cet événement de notre vie a fait que ça a créé un lien qui n'aurait peut-être pas été en place autrement. Donc, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai deux adolescentes et une qui est plus petite, par contre.
Alors, on le verra dans cette émission, le dialogue, une relation assez fusionnelle et puis une compréhension, en tout cas quelque chose d'apaisé, de fluide, une relation avec ses enfants comme celle-là, elle est bonne, bien évidemment, elle peut créer une relation mère-fille proche de la copine, mais il faut aussi se méfier, hein, on le verra. Vous mettez quelques barrières quand même déjà?
Ah, complètement. En fait, j'ai jamais voulu avoir ce rôle de la copine. C'est-à-dire que quand ils sont tout petits, nos enfants, enfin surtout les petites filles, on est la maman qui met du vernis, on est belle, on sent bon, enfin voilà. Et on tombe de notre piédestal très rapidement, hein, vers 10 ans. Et ce détachement, moi, il me semble naturel. Elles ont besoin de se construire aussi à contre-pied pour forger leur identité. J'ai jamais voulu prendre ce rôle de la copine parce qu'il appartient tout simplement à leur vraie copine et que ça fait partie de leur jardin secret, quoi, et
Et
de leur
puis,
développement.
j'ai envie de dire que vous pouvez garder le rôle de maman en disant que le vernis à ongles à 10 ans, c'est un peu trop tôt. Je vois Ombline, hein, devant moi qui dit,
C'est
eh
non.
non, c'est non. Et pourtant, elle a un garçon. Hein.
Oui, mais le vernis
Donc,
aussi à 10 ans, c'est
ouais,
pour
bien
lui aussi.
évidemment. Nadine, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à échanger sur votre quotidien avec vos trois adolescentes.
Et Claudia nous a appelé, Claudia, 29 ans, 39-21, pour nous joindre. Je suis enceinte et la mauvaise relation que j'entretiens avec ma mère me mine d'autant plus. Depuis toujours, on est en conflit. Elle est très autoritaire, veut tout diriger, c'est tout. Surtout, je ne veux pas suivre ses conseils, dit-elle entre guillemets. Je mets de la distance, mais du coup, je culpabilise.
Europe 1.
Est-ce que vous entretenez une bonne relation avec votre mère? Vous nous racontez au 39-21.
Ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux.
Une mère qui ne peut pas tout faire, selon Linda Lemay, qui fait de son mieux, c'est l'image que vous avez de la vôtre. Quelle relation entretenez-vous avec votre mère? avec votre fille. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous attend au 3921.
Et nous sommes toujours avec Nadine qui nous expliquait quelle relation elle avait avec ses trois filles adolescentes. Une relation fluide, une relation faite de dialogue, de complicité, mais aussi avec des barrières pour ne pas devenir la bonne copine et être surprise hein, lorsque ces adolescentes commencent à s'émanciper. En quel sens trouvez-vous que la relation mère-fille est une relation particulière, Nadine ?
Alors, en ce sens que, avant tout, on est aussi. Enfin, moi, je suis une femme. Et, ouais. Et c'est vrai que je pense avoir découvert plus ma féminité, finalement, grâce à mes filles qu'auparavant.
C'est-à-dire ?
Alors, j'entends par là que cette relation, de toute façon, la relation avec nos enfants, elle évolue hein, tout au long de leur vie et de la nôtre, bon, de la maturité, mais aussi au début, quand on a une petite fille, en tout cas, c'est comme ça que moi, ça s'est passé. Mm-hmm. Je lui ai fait des petits palmiers, je lui ai mis des jupes, j'ai pris beaucoup de plaisir à investir du temps, de l'argent, à en faire une petite femme, quoi.
Ouais.
Et en fait, du coup, je me suis un peu oubliée. Je pense que le bonheur d'être mère pour la première fois et d'avoir une petite fille, on projette finalement toutes ces choses qu'on aurait aimé avoir quand on était petite. Et du coup, on les donne à notre enfant et on s'oublie pendant un temps. Et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, j'étais absolument plus féminine. Et j'ai regardé ma petite fille et je me suis dit, en fait, je suis
plus vraiment raccord.
Oui, c'est ça.
Et alors, du coup, lorsque les deux autres sont venus, est-ce que vous vous êtes dit, il faut maintenant que je m'occupe de moi et comme je m'occupe d'elle ?
À peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait j'essaye de trouver une sorte d'équilibre depuis. Alors moi j'estime que je suis encore en formation, hein, une maman, je crois qu'on est toujours en formation,
bien sûr.
Déjà avec chaque enfant. Mais c'est vrai que j'essaye d'avoir une forme d'équilibre entre le temps que je leur donne et le temps que je m'accorde, parce que je pense que la féminité que j'entretiens chez moi et le temps que je m'accorde leur bénéficie à elles aussi en fait.
Mm-hmm.
Et cette relation mère-fille, j'aimerais leur passer ce message qu'à travers, entre guillemets, le fait que je prenne aussi soin de moi, et bien en fait, plus tard, elles, quand elles seront mamans, elles aient ce réflexe de ne pas s'oublier, c'est-à-dire de ne pas se dire que parce que je suis maman, je ne suis plus une femme, quoi.
Mm-hmm.
J'existe encore en tant que personne, quoi.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être jalouse d'elles, de leur réussite, par exemple ?
Alors, jalouse, non. Fière de l'audace qu'elles peuvent avoir à leur âge et que moi, je n'ai pas toujours eu, mais c'est plus... j'avoue que des fois des sanglots ou des larmes qui montent quand je les vois danser alors que moi j'aurais adoré danser quand j'étais gamine, enfin des choses qu'elles font aujourd'hui et que moi j'ai pas pu faire.
Ouais.
Mais c'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus effectivement quelque
de
part
de la nostalgie,
c'est pas bien
peut-être.
Moi je dirais qu'on se sent épanoui à travers ses enfants, mais c'est pas bien, normalement il faudrait pas se projeter comme ça à travers eux, mais quelque part on peut pas s'en empêcher, quoi.
Bah pourquoi pas, pourquoi pas.
Et moi, j'aimerais vraiment qu'elles se sentent libres de faire ce qu'elles veulent. Et des fois, j'ai l'impression, par moment, d'orienter aussi leurs décisions en fonction de des frustrations que j'ai pu avoir moi-même, quoi.
Mmh.
Alors, c'est pas toujours évident de trouver un équilibre là-dedans, hein, de les laisser détacher, vivre leur vie, découvrir leur personnalité sans trop influer, en fait, quoi.
Vos deux premières filles ont aussi vécu un divorce. Avez-vous eu l'impression que cela a changé vos rapports avec elles ?
Alors, oui, dans la mesure où je pense que cette séparation, c'est la séparation qu'on peut vivre, que peut vivre une maman, entre guillemets, classique,
ouais,
quand les enfants quittent le foyer, c'est-à-dire la découverte de la séparation. C'est-à-dire que moi, mes enfants, je les ai plus qu'une semaine sur deux depuis bientôt 10 ans.
Mmh.
Si on peut voir ça vraiment avec le recul, ça veut dire que sur les 10 ans, il y a 5 ans, je les ai pas vus, quoi.
D'accord,
et
ouais,
cette moitié du temps où on ne voit pas ses enfants, bah, on apprend à vivre sans eux. Et en même temps, du coup, moi, ça m'a permis d'obtenir une forme d'équilibre avec mes filles. C'est-à-dire qu'elles ont bien su cloisonner le moment où elles sont chez leur papa et avec leur belle-mère et le moment où elles sont chez nous avec leur beau-père. Et je pense, moi, avoir la chance d'avoir des petites filles qui sont très communicantes. Et globalement, moi, ça m'a permis d'avoir du temps pour me reconstruire aussi et apprendre à trouver ma place. Et notre relation s'en est trouvée que plus belle, puisque du coup, quand on se voit, en fait, on prend vraiment le temps de se voir et de communiquer ensemble.
Mmh. Alors, lorsque vous évoquez une semaine sur deux et donc 5 ans, hein, comme ça, vous les avez moins vus, est-ce que vous pensez que cela a été important, finalement, qu'elles se détachent de vous à un moment ?
Oui, Oui. Je pense que peut-être que j'aurais pu être une maman plus étouffante ou peut-être trop présente. Ou je sais comment j'étais avant ce divorce. Hein. J'étais, c'est vrai, j'avais tendance à beaucoup orienter leur choix, à être beaucoup sur leur dos, enfin, à pas prendre de recul. Et par la force des choses, j'ai dû en prendre. Et je pense que ça a été salvateur pour notre relation finalement.
Mmh. Justement, vous parlez sur votre blog de magnifiquement imparfaite, avoir une bonne relation mère-fille, c'est savoir être imparfaite justement.
Oui, bah oui, parce que ce rôle la mère parfaite, j'ai essayé d'y être pendant très longtemps. Ça m'a beaucoup fait souffrir hein, en me comparant aux autres mamans, en essayant d'être sur tous les fronts. Du coup, on se sent jamais au niveau sur aucun. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'à essayer d'être la mère parfaite pendant des années, j'ai envoyé un message qui n'était pas le bon à mes enfants pendant longtemps, à mes filles, comme quoi il fallait essayer d'être parfaite, très exigeante avec soi, etc. Et aujourd'hui, j'essaye de leur apprendre à lâcher du lest parce que finalement, ces premières années ont laissé quelques traces. Quoi, hein. Elles sont très dures parfois avec elles-mêmes. Quoi. Mmh.
Et je vous confirme qu'être mère ou père parfait, c'est très, très compliqué. En tout cas, on sent que vous êtes fière aujourd'hui de cette relation que vous entretenez avec vos filles. Et je vous en félicite, ma chère Nadine. Merci d'avoir partagé votre quotidien et votre témoignage aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1. Pour mieux comprendre les relations mère-fille, nous allons accueillir dans quelques instants Patricia Delahaye. Elle est psychologue et auteure de l'ouvrage « La relation mère-fille, les trois clés de l'apaisement ».
Europe 1. Ça vous parle ce que vit Nadine avec ses filles. Vous témoignez au 39-21. Cet après-midi, on parle des relations mère-fille. Vous arrivez à dialoguer avec votre adolescente, avec votre mère. Vous n'hésitez pas également à nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. On parle de la relation parfois particulière entre une mère et une fille. Une relation qui évolue sans cesse, à condition qu'elle existe. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne avec Patricia Delahaye, psychologue et auteure de l'ouvrage « La relation mère-fille, les trois clés de l'apaisement » disponible aux éditions Le Duc. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour. Alors, mettre au monde une fille quand on est une femme, cela semble vertigineux. Dans votre ouvrage, vous dites « La mère est le centre de tout, elle est à l'origine du monde, à l'origine de nous-mêmes. » Mais est-il nécessaire aux mères et aux filles de se détacher à un moment ?
Ah ben oui, bien sûr, tout le travail d'une fille, c'est de devenir elle-même, de construire sa propre vie. Et tout le travail d'une mère, c'est de l'aider à être bien avec elle-même, bien avec les autres et sans elle. Donc c'est une histoire évidemment assez compliquée parce que ça commence par une fusion de deux corps, on est la même personne et puis on va finir par être plus ou moins à la périphérie de la vie de sa fille qui va avoir beaucoup d'autres attaches, beaucoup d'autres occupations, beaucoup d'autres amours. Mmh. C'est à la fois notre réussite et parfois un peu notre tristesse, qui est bien naturelle.
Parce que c'est difficile, on dit en tout cas qu'il est difficile de couper le cordon. Et comment le faire pour que ni l'une ni l'autre ne soit blessée ?
Oui, évidemment, c'est un peu brutal. Mais je crois que ce n'est pas possible, en fait. Je crois que c'est une relation humaine, donc une relation imparfaite, comme disait tout à l'heure Nadine, je crois.
Ouais.
Ça ne peut pas être parfait. Mais c'est bien que ce ne soit pas parfait, parce que c'est justement parce que ça n'est pas parfait que nos filles vont chercher d'autres attaches, d'autres amours. Ils ne vont pas rester dans notre giron.
Ouais, ouais.
Vous voyez, c'est ça qui en fait la saveur. C'est ça qui... C'est l'imperfection qui leur enseigne aussi les choses de la vie et les choses de la relation. Elles-mêmes ne sont pas du tout parfaites non plus dans la relation, elles s'en rendent bien compte.
Non mais personne n'est parfaite dans cette relation, mais finalement cette relation mère-fille, pourquoi est-elle si complexe ? Parce qu'elle paraît moins complexe que père-garçon.
Alors, père-garçon, je pense qu'il n'en parle pas, mais c'est une relation complexe aussi, hein, qui a peut-être été un peu moins étudiée. En tout cas, pour la mère, il s'agit de passer d'une fusion à un détachement
ouais.
et à l'épanouissement d'une fille différente d'elle.
Mmh.
Différente d'elle parce que ce n'est pas la même génération, parce que ce n'est pas la même personnalité, elle n'a pas les mêmes goûts, pas les mêmes amours, pas les mêmes expériences. Mais en même temps, elle est obligée de partir d'elle-même pour élever sa fille.
Mmh.
Comment pourrait-elle faire autrement? Donc elle va essayer de lui transmettre ce qu'elle sait de la vie. Mais ça ne va pas forcément correspondre à ce que va vivre sa fille, vous voyez
ouais.
Donc ça provoque évidemment des tas d'incompréhensions qui vont pouvoir être... atténuée ou mieux comprise par le dialogue, évidemment.
Mais est-ce que c'est justement ce que vous décrivez me fait penser à cet effet miroir qui paraît assez inévitable entre une mère et sa fille. Est-ce qu'on parle bien de ça ?
Bien sûr qu'on parle de ça. C'est-à-dire que la fille regarde sa mère pour grandir. Au début, elle a envie d'être comme sa mère, et puis après, elle a envie d'être mieux que sa mère, puis après, elle a envie d'être différente de sa mère pour se trouver elle-même. Elle passe comme ça par des tas d'étapes où la mère est comme un phare qui, peu à peu, va devenir un des phares.
Mmh. Certaines...
Mais qui va
ouais.
le rester quand même, mais qui va le rester toute sa vie quand même.
Ouais.
Parce que la mère devance la fille et va lui montrer, ben justement, comment on se repositionne, comment on accepte les frustrations, comment on se repositionne, comment on est heureuse autrement, et à tous les âges de sa vie, jusqu'au dernier moment. Voyez, donc là, en fait, la fille reste un exemple pour sa mère,
mmh.
mais à condition que chacune reste dans son âge et à sa place.
Certaines mères sont très fusionnelles avec leur fille et deviennent comme des copines avec elle. Est-ce que cela peut être ça, le rôle d'une mère aussi? Et ça peut vraiment marcher, ce rôle copine quand on est
non.
mère? Non.
Alors, je ne crois pas. Enfin, moi, je reçois dans mon cabinet des filles et des mères qui viennent me voir ensemble
ouais.
pour mieux se comprendre et pour mieux s'entendre. Et c'est une des plaintes des filles, en effet, d'avoir des mères copines. Parce qu'une copine est de la même génération que
ouais.
soi.
Ouais, ouais.
Et une mère, ce qui fait son intérêt et toute sa puissance dans la vie de sa fille, c'est qu'elle la précède dans l'ordre des générations. Donc elle peut lui montrer l'exemple. Elle lui montre ce qu'est une vie de femme. Elle lui montre ce qu'est une vie de femme mûre. Elle lui montre ce qu'est une vie de femme vieillissante.
Et c'est
donc,
justement
c'est un modèle. Et une copine, c'est quelqu'un qui traverse les mêmes
ouais.
moments de vie en mmh. même temps que soi. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas coller.
Mais c'est sûrement cette différence de génération qui creuse le fossé à un moment lorsqu'on est dans ce type de relation de copine avec sa fille.
Alors exactement. Enfin, dans une relation de copine, on peut être proche, mais on peut être proche de sa mère ou proche de sa fille, mais c'est pas une relation en bonne santé,
mmh.
si vous voulez,
mmh.
parce que de fait, si vous voulez, une mère apporte des codes. C'est-à-dire comment on vit dans une société donnée, un cadre aussi.
Mmh.
Parce que si sa fille commence à faire n'importe quoi, elle va lui dire « Attention là, ma petite, ça ne va pas aller du tout dans ta vie si tu continues comme ça. » Et une copine peut dire la même chose, mais elle a beaucoup moins d'écho, si vous voulez.
Mmh.
Et puis donc, c'est de l'amour et du cadre, une mère.
Mmh.
Et c'est un modèle aussi.
Patricia Delahaye, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue et auteur de l'ouvrage La relation mère-fille, les trois clés de l'apaisement. Nous serons dans quelques instants avec Brigitte. Elle a définitivement coupé les ponts avec sa mère, mais elle dit qu'elle n'a pas eu une mère comme tout le monde.
Et Clara témoigne au 39-21, elle a 32 ans. Elle nous appelle du Rhône. À l'adolescence, j'étais particulièrement difficile. Ma mère m'a toujours fait confiance, même si je désobéissais. Je n'ai pas toujours été tendre avec elle à cette période. Mais aujourd'hui, on entretient une relation très saine et équilibrée. Elle est un repère pour moi dans la vie.
Europe 1.
Enfant, adolescente ou adulte, la relation avec sa mère évolue forcément avec l'âge. Quelle est la vôtre? Quelle est votre relation? Vous témoignez sur Europe 1 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Brigitte sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Brigitte?
J'appelle d'Espagne et j'ai 55 ans.
D'accord. Alors Brigitte, je vais résumer un peu votre histoire. Vous vous êtes construite avec une mère assez particulière, sans repère pour vous, hein, je dis bien, puisque elle vous a eu à l'âge de 20 ans. Et quand vous avez eu 4 ans, cette mère a disparu, elle est partie. Vous avez alors habité chez votre grand-mère maternelle. Cette maman a fini par revenir après des années assez tumultueuses. Vous aviez l'impression de chercher son amour à ce moment-là. Qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là quand elle est revenue?
Une maman de l'affection, une maman tout simplement, une maman normale.
Mmh. Et quelle impression elle vous donnait à cette époque? Est-ce qu'elle vous donnait l'impression de, de, toujours ne pas vous intéresser à vous ?
Non, elle s'intéressait qu'à elle, en fait. C'était son monde, son fils qu'elle avait eu entre-temps, puisqu'elle était partie, elle avait eu un autre enfant.
Oui.
Mais j'étais sa fille, voilà, c'est tout, j'étais sa fille.
Et donc ça se traduisait comment, c'est tout ?
Elle vivait avec nous quand elle est revenue, et elle était assez agressive, assez autoritaire, pas beaucoup d'intérêt. Quand elle avait de l'intérêt, c'était pas un intérêt sentimental, c'était parce qu'elle avait besoin que je garde mon frère ou que je lui rende des services, c'est tout.
Alors vous dites qu'à l'adolescence, elle critiquait beaucoup votre physique, qu'elle voulait vous habiller à son image. Comment est-ce que vous viviez ça et qu'est-ce qu'elle vous disait pour justement influencer vos goûts et que vous vous habilliez à ses goûts à elle ?
Ben, moi, je trouvais ça très bien parce que étant donné que je vivais avec ma grand-mère et ma tante, bon, ben, j'étais habillée très classique. Puis elle est arrivée et moi, je la voyais, elle, habillée comme ça et c'était une très jolie femme.
Oui.
Donc, elle voulait que je m'habille moderne avec des jeans, des talons, des vestons de cuir et tout. Et moi, je trouvais ça assez bon à cet âge-là. Ben, tout le monde trouve ça assez amusant et super bien. Donc, qu'est-ce qu'elle me disait ? Tu peux pas rester comme ça, t'es moche comme ça, il faut te coiffer comme ça, il faut changer la couleur de tes cheveux, il faut faire plein de choses.
Oui, puis peut-être que l'amour que vous cherchiez à cette époque-là, vous aviez peut-être l'impression que vous alliez le trouver en vous exécutant et en faisant ce qu'elle vous demandait.
Aussi. Et puis bon, j'avais l'impression qu'elle s'intéressait à moi. Pour une fois, elle s'intéressait à moi. Donc j'écoutais, je faisais tout ce qu'elle me disait.
Pourquoi elle avait cette attitude avec vous, à votre avis ?
Ben, avec les années, le passé, je pense qu'il y avait une certaine rivalité.
Oui.
Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais une jolie jeune fille et elle devait être jalouse. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je n'ai jamais vraiment très bien compris ses intentions, ni tout ce qu'elle a fait. Ni...
On a l'impression, en vous écoutant, qu'aucune relation n'a réussi à s'établir entre vous. Ça n'était pas possible, finalement, avec elle, d'établir quoi que ce soit ?
Non.
Ouais.
Non, je pense que... Moi, je devais probablement avoir quelque part dans ma tête cet abandon qu'elle avait fait et qui m'a rendue quand même très malheureuse pendant 2 ans.
Bien sûr.
Je devais peut-être garder ça. Je ne sais pas comment on réagit en tant qu'enfant à 4 ans face à une situation comme ça.
Ça doit rester, en tout cas. En tout cas, vous avez fini par couper les ponts. Hein. C'était visiblement préférable pour vous. À quel âge vous avez coupé les ponts et pourquoi ?
Je suis partie de la maison quand j'avais 16 ans parce que je ne voulais plus lui servir de nounou et pour garder mon frère. Donc je suis partie vivre chez, à ce moment-là, mon petit copain qui avait 18 ans. Donc moi, je suis partie à 16 ans. Après, on a commencé à se voir, mais je vais dire une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois, on s'entendait. Et je n'avais pas besoin d'elle. Je n'avais pas envie de la voir. Je n'avais pas envie de l'entendre, et de toute façon, quand je l'entendais, c'est parce qu'elle avait toujours besoin de quelque chose.
Oui. Vous dites que c'est tabou de rejeter sa mère. Qu'entendez-vous par là ?
C'est horrible. Je vois ça tous les jours. Quand on vous demande ta maman, et que déjà le mot maman, pour moi, il est très dur parce qu'une maman, c'est pas du tout celle que moi j'ai eue.
Oui.
Et que quand je dis moi, ma mère, je veux plus en entendre parler. Je dis on peut m'appeler demain et me dire qu'elle est à l'agonie et que je dois venir le dire. J'irai pas. J'irai jamais. Les gens sont choqués. On voit leur tête et ils me disent mais enfin, c'est quand même ta mère. Ben, non. Une mère, c'est juste la personne qui vous a mis au monde. Hein. Il y a des gens qui adoptent des enfants et qui aiment plus les enfants adoptés que ma mère m'aimait à moi.
Brigitte, il me semble que vous avez un fils.
Oui.
Quand vous étiez enceinte et quand vous avez mis au monde votre garçon, est-ce que votre mère vous a manqué ? Est-ce que vous avez peut-être tenté de renouer un petit peu plus le lien ou pas spécialement ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le jour de la naissance de mon fils, quand elle est venue à la maternité, elle m'a dit « t'as même pas été foutue de faire une fille ».
Ah oui, d'accord.
C'est tout ce qu'elle m'a... Elle m'a même pas félicité, elle m'a même pas dit c'est bien, ici ou là. Elle m'a dit « t'as même pas été foutue de faire une fille ». Je veux dire, ma mère est comme ça, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas vous expliquer.
Je me tourne vers vous, Patricia Delahaye. Brigitte a une histoire très particulière, hein, on l'entend. Comment se construire en tant que fille, que femme, même quand on a une mère aussi défaillante qu'elle l'a eue ?
C'est pas une histoire si particulière, hein, pardonnez-moi, mais il y a quand même, mettons, 10% des filles, c'est à peu près ce que disent les statistiques, qui ont une mère qui agit comme si elle n'avait jamais eu d'enfant. Vous voyez, parce qu'avoir un enfant, c'est prendre soin de la sensibilité de sa fille et c'est l'aider à vivre et à grandir. Et il y a des mères qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas sortir d'elles-mêmes, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles veulent, qui corrigent leur fille, qui lui font du mal, qui l'abîment, qui ne l'aident en rien. Et hélas, c'est très très douloureux parce que toutes les autres personnes qui ont eu des mères habituelles, enfin aimantes, normalement aimantes, ne peuvent pas comprendre qu'une mère ne soit pas une mère et que donc une fille ne soit pas une fille. Mm-hmm. C'est incompréhensible. Mm-hmm. Alors comment faire ? Eh bien, je crois qu'à un moment, si vous voulez, y a, dans toute relation mère-fille, il y a des moments où ça peut se désajuster, être très conflictuel et tout ça. Mais si un jour, il y a eu de l'amour dans le passé, ça va revenir. Il faut se faire confiance, avoir confiance en la relation, avec de l'explication, éventuellement une thérapie mère-fille, voilà. Mmh. Ça va revenir. Mais dans certaines relations, comme celle de Brigitte et de sa maman, sa mère, pardon, elle a raison d'insister là-dessus, s'il n'y a jamais eu rien de bon, ça ne viendra pas.
Mmh. Et finalement, Brigitte a pris la bonne décision en coupant les ponts parce que c'était sûrement la meilleure manière de se protéger. En tout cas, merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Patricia Delahaye, vous restez en ligne avec nous. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Laura. Elle est maintenant très proche de sa mère après avoir vécu une adolescence assez difficile.
Europe 1. Quelle relation entretenez-vous avec votre mère, avec votre fille? Arrivez-vous à trouver un bon équilibre? Ni meilleurs amis, ni meilleurs ennemis. Nous vous écoutons au 39-20.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Laura. Bonjour Laura, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Laura ?
Alors, je vous appelle à côté de Strasbourg, en Alsace.
D'accord. Et quel temps vous avez aujourd'hui ?
Écoutez, un beau et grand soleil, il fait bien chaud.
C'est parfait. Laura, vous avez vécu une véritable séparation avec votre mère. Dès l'âge de 14 ans, c'était très conflictuel. Expliquez-moi ce qu'il s'est passé entre vous.
Oui, tout à fait. Alors, comme beaucoup, j'ai connu la famille recomposée. Donc, on a eu un papa absent pendant toute notre enfance.
Ouais.
Et à l'âge de 14 ans, j'ai un autre homme qui est rentré dans ma vie. Hein,
un beau-père, oui.
Ma maman, mon beau-père, tout à fait. Et ça a été très difficile d'accepter l'autorité et la présence d'un homme au sein même de la famille. Donc voilà, ma maman a dû faire tampon entre les deux et voilà, prendre sur soi un peu d'un côté, un peu de l'autre. Et ça a été très très mal vécu dans notre relation en étant plus jeune.
Vous étiez très fusionnelle hein, quand vous étiez plus petite. Vous pensez que lorsque ce beau-père est arrivé, c'était votre manière à vous de vous émanciper, d'être dans le conflit permanent avec votre mère ?
Non, ça a été une incompréhension, je pense. Et puis il y a l'adolescence en même temps, donc je pense que en étant forte tête, j'ai pas tout compris. Donc voilà, on a effectivement été très en conflit, elle et moi, mais en grandissant et en prenant un petit peu de l'âge, voilà, on a retrouvé cette très très grande complicité.
Alors avant, il y a eu ce départ d'unifamilial, hein, et ce départ, il semble avoir apaisé vos relations. Expliquez-moi comment.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense que la distance, le fait de ne plus vivre sous le même toit, donc de ne pas voir se supporter toute la journée, se parler, de ne pas vivre avec les règles de la maison, tout simplement. Hein. Donc, j'ai pu faire effectivement la vie de mon côté, ma maman la vie de la sienne. Et puis, en même temps, on a toujours gardé contact. On s'est toujours vu, elle a toujours été un soutien dans les épreuves, mon beau-père ouais. aussi, malgré qu'on soit en conflit. Mm-hmm. Donc ça nous a permis de nous retrouver en fait.
Et lorsque vous êtes partie d'unifamiliale, vous êtes partie vivre chez votre père ?
Non, pas du tout. Non, je n'ai plus contact avec mon papa depuis maintenant plus de 10 ans. Donc voilà, j'ai été effectivement chez des amis de droite à gauche.
D'accord. Alors il a fallu du temps pour que vous trouviez le bon tempo avec votre mère. Ça a été dû à quoi que ça prenne autant de temps, à votre avis ?
Voilà, le temps que les choses s'apaisent, le temps que je grandisse également, hein, que je mûrisse.
Ouais.
C'est vrai que j'ai dû être rapidement autonome, du coup, travailler, rentrer dans le monde, dans la vie active. Mmh. Donc voilà, ça, il a fallu un petit peu de temps, 5 ans, je dirais.
Ouais.
Ouais, 5 bonnes années, et puis voilà, après on s'est retrouvés, et puis maintenant on est maintenant inséparables, c'est devenu ma meilleure amie, et je lui confie effectivement absolument tout. On est très très complices.
Bon, et qu'est-ce que ça fait d'avoir ce soutien-là ? Parce que on sait que c'est important d'avoir une mère avec qui on peut tout partager.
Écoutez, je pense que c'est très très important. Je sais que très peu de personnes ont la chance d'avoir une maman présente dans leur vie, enfin autant que la mienne puisse l'être, et d'avoir un soutien important. Mais c'est super, c'est un repère quand on a besoin d'aide, quand on a des questions, on sait à qui parler, on sait à qui se confier. On sait que ça restera entre nous également, donc je pense que c'est très très important et ça permet de se construire bien pour la vie future.
Mmh. Aujourd'hui, votre mère, c'est celle à qui vous dites vraiment tout, entièrement tout, c'est la seule à qui vous vous livrez autant?
Alors il y a ma maman et ma petite sœur, je dirais que ma petite sœur, je lui livre effectivement tout, ma maman, il y a deux, trois choses qu'on évite
que
de lui dire,
de côté.
Mais sinon effectivement, pour tout le reste, elle est au courant. Hein.
D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Laura pour votre appel cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Marie, à Nadine, à Brigitte de nous avoir raconté leur histoire et à Patricia Delahaye pour ses analyses et ses éclairages. C'est la fin de cette émission. La relation entre une mère et sa fille évolue au fil du temps et c'est parfois en devenant mère à leur tour que les filles comprennent mieux certaines attitudes qui pouvaient les irriter avant. Il y a celles qui veulent faire comme leur mère et d'autres qui ne voudront pas reproduire ce qu'elles considèrent être des erreurs. Dans le duo mère-fille, il y a à la fois un effet miroir et l'envie de se démarquer, de s'émanciper. Le dialogue, comme souvent, semble être primordial. On peut continuer
bien
à en discuter, bien sûr. Et les mères et les filles qui n'ont pas eu le temps
évidemment
cet après-midi de s'exprimer, elles peuvent en discuter
sur Facebook.
Sur Facebook, sur Twitter, partout.
Voilà. Facebook, le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Et puis, bien sûr, Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de la maltraitance des personnes handicapées. Manque d'intimité, traitement inadapté. La liste des pratiques qu'il faudrait changer est longue. Alors, si votre enfant ou votre parent souffrant de handicap a été maltraité, si vous avez été maltraité vous-même, si au contraire la bienveillance est le maître mot de votre établissement, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial cette semaine. Merci aussi à l'excellente réalisation de Boris Paczynski. Et puis bien évidemment, merci à vous, ma chère Ombline.
Merci, Olivier, à lundi.
Je vous laisse maintenant avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs que vous retrouvez dès 16h sur Europe 1. Salut Carl.
Eh bien Olivier, je suis à ma droite avec Catherine Jacob et à ma gauche avec Plantu, le dessinateur.
Carl Zéro et ses tontons flingueurs, c'est à partir de 16h sur Europe 1. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. À lundi, 15h. Au revoir.